toutes et à tous. Bienvenue sur Aligre FM. Nadia et Taïeb au micro aujourd'hui pour vous présenter votre magazine littéraire hebdomadaire Au fil des pages. Une voix, celle de Laurie, enfant de l'assistance publique, élevée par des parents adoptifs, tendres, attentifs, dans une Ardèche qu'elle prend comme une terre d'ancrage. Une voix et un roman qui se présente comme une quête des origines, d'un en-deçà du langage, de la conscience. Une voix qui, comme souvent chez François Dominique, interroge la part de notre enfance invisible, celle qu'il faut chercher pour mieux se comprendre, se connaître, pour retrouver un reflet dans le miroir et finalement pouvoir donner une direction à sa vie. C'est le thème du roman « Qui es-tu ?» publié au Mercure de France, et François Dominique est aujourd'hui mon invité. Bonjour François Dominique. Merci d'avoir accepté cette invitation. On va parler de ce très beau roman qui, au-delà de la question de l'adoption et de la quête de l'origine, qui prend un relief et une acuité toute particulière lorsqu'on ne sait pas où l'on a passé les 5 premières années de son existence et où l'on est né, où on a été abandonné. Cela fait beaucoup de « où » qui oblige à s'interroger sans cesse. On va en parler tout de suite après cette pause musicale.
Them that's got shall have, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending it, rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Money, you've got lots of friends. They're crowding round your door. But when you're gone and spending ends, they don't come no more. Rich relations give, crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, bless the child that's got his own, that's got his own. He just don't worry about nothing, 'cause he's got his own. Yes, he's got his own.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et c'est God Bless the Child, 1955, la voix inoubliable de Billie Holiday, que j'ai choisi pour ouvrir ce dialogue avec vous, François Dominique. Cette chanson, elle est inscrite à un moment donné, elle intervient, elle apparaît plutôt dans votre livre dont on va parler aujourd'hui, Qui es-tu ? Un très beau roman publié au Mercure de France qui, je le disais en introduction de cette émission, interroge la quête des origines chez une enfant adoptée, chez des enfants adoptés, mais finalement c'est un roman qui nous parle à tous. Alors avant d'y venir, je voudrais rappeler qui vous êtes. Vous êtes essayiste, traducteur, romancier. Ce roman, je crois que c'est le 11e, si je ne me trompe pas. Et je vous avais interviewé il y a quelques années pour un roman qui avait reçu la mention spéciale du prix Veplaire et le prix Charles Brisset Solène. Il me semble que dans beaucoup de vos romans, François Dominique, c'était aussi le cas donc dans Solène, mais aussi dans La Petite Cassandre, la question de l'enfance est prégnante et d'une recherche qui se situe en deçà des mots, en deçà du langage, et que pourtant vous essayez de traduire par un langage, par les mots.
Oui, en effet, je pense que dans la littérature, le plus important, c'est d'aller creuser là où la mémoire ne va pas, c'est-à-dire sur l'origine même du langage. Louis-René Desforêts, un ami très cher qui est hélas disparu et sur lequel j'ai fait un petit essai au Mercure, disait que toute écriture véritable s'origine dans l'enfance. Alors, néanmoins, dans les livres que j'ai écrits, aucun n'a un caractère biographique concernant mon enfance, sauf un qui s'appelle « Parole donnée », mais pas vraiment, parce que « Parole donnée » se situe à l'âge de préadolescence, à 13 ans. Mais oui, je suis d'accord, c'est pas seulement... J'en ai conscience. Le problème, c'est que quand vraiment vous creusez vers l'origine du langage tel qu'elle vous est advenue, hein, la langue maternelle, y a un moment de recul, parce que ça demande... C'est une investigation qui coûte en termes d'angoisse, de non-savoir, et qui oblige à s'écarter de tout projet frivole qui serait simplement fondé sur des intrigues et des récits puisés dans la vie immédiate. Voilà pourquoi, au fond, je n'écris pas très vite et je ne publie pas souvent. Vous voyez, Solène, ça fait 10 ans. Parce que chaque fois, entre le départ et puis la fin, c'est un travail à la fois joyeux et auquel il m'arrive de résister.
Alors, vous avez employé à deux reprises, et ça ne m'a pas échappé, François Dominique, le verbe « creuser ». Et il me semble que ce n'est pas un hasard, puisque votre personnage, Laurie, qui s'adresse à nous dans un journal où elle revient, on pense qu'elle a à peu près 50 ans, sur son histoire, elle-même creuse, elle est géologue, elle est fascinée par les pierres, le minéral, le sable, comme s'il y avait dans cet espace stratifié, parfois depuis des millions d'années, dans ces fossiles, quelque chose qui pouvait la renvoyer justement à un temps très lointain qui nous échappe et qui pourtant revient ou reste à travers des traces laissées.
Oui, tout à fait. Alors, si vous, comme vous le savez, on ne va pas raconter l'histoire du roman.
Non.
Mais la question de la Terre, dont nous provenons tous, est centrale dans le récit. Il se trouve que le signataire, c'est-à-dire moi comme individu, je partage avec Laurie Cardan une passion non seulement pour les minéraux, mais pour les végétaux. Je pratique beaucoup la randonnée, j'aime la montagne. Et d'ailleurs, dans le cours de mes études, j'ai raté l'examen d'entrée à l'école de géologie de Nancy. Bon, ça, c'est le seul point commun, si vous voulez, qui apparente la biographie fictive de Laurie Cardan à la mienne.
Et il y a dans ce rapport à la Terre la question aussi de l'enracinement, de l'endroit où on arrive malgré tout à s'ancrer, malgré ce point aveugle de la naissance, de l'origine, de l'antériorité de la conscience, qui, je le disais, est prégnant chez tout un chacun, mais particulièrement lorsque l'on est un enfant abandonné. L'Ardèche, par exemple, dans votre récit, m'a semblé être ce pays qui répond à l'exil intérieur de Laurie.
Il est probable que pour chacun, le développement du langage et l'usage qu'on en fait au cours de la vie pour vivre, pour survivre, est étroitement lié à la question du lieu. Et la question du lieu, chacun finalement se fait un paysage mental du lieu qui est son lieu d'origine ou qui s'est attribué comme lieu d'origine. En l'occurrence, c'est aussi un point que je partage avec la biographie de Laurie Cardan. Ma famille maternelle est originaire de l'Ardèche depuis de nombreuses générations. Et je la connais bien. J'ai crapahuté en Ardèche. Je peux dire que c'est en quelque sorte mon pays d'élection, bien que je n'y sois pas né, je suis né à Paris.
Et pour votre personnage, c'est une terre d'adoption.
C'est une terre d'adoption, tout à fait.
Pourquoi, François-Dominique, vous êtes-vous intéressé particulièrement à cette question de l'abandon et de l'adoption pour construire votre récit ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette situation ?
Il y a un psychanalyste qui s'appelle Winnicott, dont je suis le lecteur, je n'ai jamais pratiqué la psychanalyse et je n'ai jamais été analysant, mais j'étais un lecteur de Winnicott que je trouve assez fascinant lorsqu'il parle de l'enfance. Et lorsqu'il parle de l'enfance et d'origine de l'angoisse, il cite deux faits primaires, la peur de tomber et la peur d'être abandonné. Et au fond, en dehors de la psychopathologie, je crois que même chez les êtres les plus vaillants, les plus prétentieux dans la tenue qu'ils ont, de leurs attitudes, de leur prestige, ça existe quelque part cette faille, cette petite faille originelle qui va permettre aussi l'accès au langage par le fait que l'enfant entend la voix. Il commence par entendre les voix. La voix de la mère, bien sûr, la voix du père, d'autres voix extérieures. Et le fait de remonter jusqu'à l'origine du langage chaque fois qu'on écrit pour de vrai, je dirais, vraiment pour de vrai, on croise cette faille originelle qui n'a pas, qui ne laisse pas de traces. En dehors des cas psychopathologiques, si vous voulez, mais qui me paraît, en effet, pour ce qu'elle est, comme en parle Winnicott, c'est-à-dire la faille originelle. Oui.
Et cette faille originelle, elle trouve également à s'exprimer dans le rêve, qui tient le cauchemar, qui tienne une place importante dans votre récit.
Expliquez-nous comment cette scansion par le rêve vous est venue, vous qui dites que vous êtes intéressé par la psychanalyse, mais que vous n'avez pas fait les François-Dominique.
Je n'ai jamais noté mes propres rêves. En réalité, je le fais depuis que ce livre est terminé. C'est assez curieux, je le fais très régulièrement, ce qui m'aide, ce qui me prépare d'ailleurs à un prochain roman. Dans ce livre, les rêves en plus ont une connotation particulière parce qu'il est question aussi de l'Australie.
On va en parler.
Et,
oui.
Voilà.
Oui.
Et du temps des rêves.
Oui. Alors, effectivement, une partie de votre roman se déroule en Australie, mais et on va en parler, bien sûr, de ce temps des rêves très poétique et de la rencontre avec Saul, qui est un peu un double, un frère, lui-même abandonné, je crois. Mais je voudrais d'abord qu'on reste sur cette question centrale dans le livre, quand même, du rêve qui se... Enfin, j'imagine que pour vous, construire un roman, écrire un roman dont le centre manquant finalement est la question de l'origine, du lien, ça a dû être compliqué et parce que justement il faut trouver la forme. Comment cette forme est venue progressivement? Avec cette place réservée aux rêves comme porte d'entrée vers l'inconscient.
Pardon.
Oui, pardon.
Ce que je dois dire d'abord, c'est que les quelques fois où un roman m'est venu, vous avez dit que j'ai fait 13 ou 14 ou 15 livres, mais le nombre de romans est plus restreint. Il y en a 4, 5. Eh bien, chaque fois que j'ai essayé de faire un plan, que j'ai essayé de faire une structure, c'est comme un château de cartes. Ça s'effondre, ça ne marche pas. C'est la mauvaise voie. Et ce qui se passe, en fait, c'est que chaque fois, c'est une voix que j'ai entendue. Par exemple, en l'occurrence, la voix de Laurie, un matin, je me lève et avec insistance, entre sommeil et éveil, j'entends une voix d'enfant disant « Je regarde par la fenêtre, je regarde dans le salon, je vois tout sauf moi. » Et elle énumère l'armoire, la glace, etc. « Je vois tout sauf moi. » Et le fait d'être privé de la vue de soi-même est l'expression physique du fait de l'ignorance de son origine et va tourmenter plus ou moins... D'abord moins, et plus jusqu'au moment où, malgré le conseil de son ami Saul, elle va entamer une recherche sur son origine.
Oui, alors Laurie ne voit pas son reflet, ça on peut le dévoiler. Oui. C'est la part un peu ésotérique de votre récit, comme il y avait dans Solène, on est toujours un peu... entre deux mondes, rêve, réalité, il y a presque parfois une tonalité fantastique. Et Laurie, c'est très beau comme trouvaille, effectivement, ne voit pas son reflet, c'est-à-dire, au fond, ne peut pas se connaître à travers l'image que les autres ont d'elle. Et c'est toute la question de l'identité qui est ainsi posée, François-Dominique.
Oui, j'imagine. Enfin, en terminant le livre, je me suis dit que ce livre m'interrogeait moi-même et que le lecteur serait mis dans cette position de s'interroger lui-même. C'est-à-dire que ce livre revient vers le lecteur comme un boomerang et revient vers son auteur comme un boomerang. Le « qui es-tu » d'ailleurs, qui n'est pas un jeu de mots sur la question, ce mot « qui es-tu » fait partie d'une langue aborigène de la province de Victoria, qui se trouve au sud de l'Australie, et il désigne l'esprit des absents, défunts ou disparus. La convocation des absents, c'est-à-dire faire parler ce qui est absent, et au fond, c'est le sujet du livre.
Alors, on va en parler après une petite pause musicale, François Dominique. Et j'indique à Didier Robert, qui est à la technique, que j'aimerais entendre le troisième titre, puisque bon, il est question de l'Australie. Et pendant qu'il le cherche, parce que ça n'était pas prévu dans le conducteur, et je m'adapte à ce qui jaillit de la conversation que nous avons, je rappelle qu'effectivement, dans votre roman et dans le récit initiatique de Laurie, votre personnage principal, l'Australie tient une place importante. On va y revenir après cette pause musicale, si elle est calée. Oui ? Ok, donc on écoute.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et il est 10h23 sur Allegre FM 93.1. Je suis en compagnie de François Dominique pour son très beau roman intitulé Qui es-tu, depuis 10h ce matin dans Au fil des pages. Et ce que l'on vient d'entendre, François Dominique, c'est, je vous le disais hors antenne, un chanteur australien, guitariste. Il était aborigène, né aveugle, et je trouvais que c'était... Et il chante dans la langue Yolngu. Il parlait très peu l'anglais. Il est décédé en 2017 et il a été reconnu comme un très grand musicien. Il a même reçu l'hommage du Premier ministre australien Malcolm Turnbull, du musicien Peter Garrett et du doyen du Conservatoire de musique de Sydney. Je trouvais que c'était... En lisant votre roman, comme je le fais souvent, je m'interroge sur l'habillage qui pourrait l'accompagner. Il m'a semblé que ce musicien aveugle, aborigène, australien, donc, était une belle illustration du pont que vous installez entre Laurie, votre personnage adopté et en quête de ce point aveugle dans ses origines, et l'Australie, la rencontre qu'elle y fait avec Saul, une espèce de frère d'adoption, puisque l'adoption est au cœur du roman. Lui-même, lui-même abandonné, mais surtout appartenant à un peuple qui a été dépossédé de sa culture, de son histoire, de ses origines et de sa langue, comme si vous vouliez tisser une espèce de lien, un parallèle en tout cas, entre la colonisation et la perte des origines.
Alors c'est particulièrement vrai dans le cadre de l'Australie. La colonisation était extrêmement brutale, accompagnée d'extermination et d'assimilation forcée dans des collèges, dans des écoles, etc. Et ça a eu pour conséquence la destruction de nombreuses langues, dans une situation d'ailleurs où les aborigènes d'Australie n'ont pas une langue, ni deux, ni trois. Il y a une très grande dispersion des langues sur un socle commun. Mais chacune de ces langues ne peut se maintenir que si elle se rattache à une population libre de vivre comme vivaient depuis des millénaires les aborigènes, c'est-à-dire non pas sur des territoires clos, mais sur des trajets. Et j'ajouterais que ce personnage de Saul, pour moi, sur un plan imaginaire, il me renvoie à quelque chose de ma propre enfance. Quand j'avais 12 ans à peu près, je passais les vacances de Pâques chez ma grand-mère Noélie à Paris. Et elle m'avait dit « je vais t'apprendre Paris ». Et une fois, elle m'emmène métro Porte Dorée, l'ancien musée qui s'appelait Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie, dans lequel il y avait au sous-sol l'immense collection de peintures aborigènes de Karel Kupka. Et j'étais fasciné. Mon intérêt pour l'Australie date de cette visite des peintures sur écorce. J'avais acheté, je l'ai toujours, le livre de Karel Kupka sur ses peintures. Maintenant, je pense qu'une partie de la collection est au musée Branly, mais je n'en suis pas sûr du tout, parce qu'il y a quand même une dispersion au moment de la constitution du musée Branly par rapport à d'anciennes collections. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ce livre de Karel Kupka a installé en moi une nostalgie étrange d'un pays où je n'avais pas encore mis les pieds. Et la préface d'André Breton à ce livre avait ajouté quelque chose pour moi, parce que très clairement dans cette préface, André Breton fait allusion au fait que les aborigènes nous interrogent nous-mêmes sur notre origine. L'aborigène, c'est celui qui est d'un lieu, qui est né d'un lieu. Et on retombe sur ce que nous disions tout à l'heure, sur l'importance du lieu pour déterminer l'identité.
Aligre FM 93.1.
Et je voudrais lire un extrait, si vous permettez, François Dominique, où justement affleure ce parallèle entre les sédiments d'une histoire millénaire, la recherche de la langue perdue, qui est aussi finalement un langage de l'origine du monde. Et c'est là que votre roman prend une portée tout à fait universelle, tout en nous invitant à suivre des individus tourmentés par la recherche de leur propre origine. Je n'écoute déjà plus. Je songe aux millions d'années au cours desquelles la vie est devenue terre, roche, sable, fossiles et dépôts sédimentaires, sans laisser la trace des cris, des chants, des appels et signaux sonores, heureux ou tragiques, lancés par les êtres vivants et parmi eux, finalement, les humains. Saul est perplexe. Il voit que j'écoute à peine la conversation avec M. Magnan et mon père, que je traduis de moins en moins fidèlement. Il me demande ce que je pense de tout ce problème des langues perdues. Je le connais assez pour savoir qu'il doute de l'efficacité du combat qu'il mène avec d'autres pour la survie des langues, car l'Australie a déjà connu la disparition de dizaines de langues indigènes. Je ne réponds pas à sa question. Je sais bien que le langage, quel qu'il soit, est à la fois notre monde et notre horizon. Mais je sais aussi qu'il se comporte comme les sédiments terrestres, empilant couche par couche traces et déchets de son passage dans le temps, traversant l'oubli, déposant des jalons, des objets, des œuvres diverses qui ne prospèrent sur ce terreau qu'après coup, par abandon et réemploi des sédiments. On aurait donc tort de penser que les mots ne laissent d'autres traces que le silence des êtres défunts, leurs os, leurs cendres, les tombes, une absence si vaste que même les souvenirs seraient définitivement inhumés. Les mots continuent de rôder un peu au-delà de la vie de ceux qui les prononcent. Ils passent dans les livres et les archives, se fossilisent dans les objets que nous fabriquons, dans nos rites et nos façons de vivre. Les nouvelles langues charrient elles-mêmes les restes des anciennes, mais je me trompe certainement. Quelles traces avons-nous des toutes premières langues ? Aucune. Tout s'efface, contrairement à ce que je viens de penser. Tout s'effacera, même ce journal. D'ailleurs, je ne suis pas sûre de le garder. Saul m'apostrophe. À quoi penses-tu, Laurie ? Tu sembles soudain très loin de nous. Tu es fatiguée ? Vous savez, en tant que simple fouisseuse de roches, je ne sais pas où sont les gisements des langues perdues. Très belle phrase qui clôt cet extrait de Qui es-tu, François Dominique. La question des langues est donc centrale, celle des lieux, vous le disiez aussi, et aussi finalement dans la quête qui nous habite tous de l'origine, de lieux que nous avons fini par adopter comme étant les nôtres. Lorsque Laurie retourne en Ardèche, elle y trouve plus qu'une terre d'accueil, une terre d'ancrage, et ça donne lieu à des descriptions d'une nature extrêmement colorée, odorante, sensuelle. Vous faites une place très importante au corps dans votre roman, alors même que le reflet du corps de Laurie est absent dans les miroirs.
C'est peut-être en contrepartie pour Laurie elle-même du fait que ne pouvant se voir ni dans l'eau ni dans une glace, elle a tout de même la perception de tout ce qui est autour d'elle. Elle a une perception très aiguisée, aussi bien sur le plan auditif, tactile, que sur le plan visuel, de tout ce qui l'entoure, de tous ceux qui l'entourent. Et quand elle parle de sa mère adoptive, elle parle de ça aussi, c'est-à-dire sa mère adoptive cueille des simples, des herbes, des fruits sauvages, et elle va retrouver la même chose à un autre moment lorsque elle est géologue en Lorraine avec l'homme qu'elle épousera et qui va décéder par accident, et elle retrouve ça également dans le bush. En dépit du caractère désertique et extrêmement sauvage du bush, elle retrouve ça dans le goût qu'elle a, en quelque sorte, de goûter, d'examiner, de toucher ces minerais dont elle a le souci, sur un plan économique, puisqu'elle est géologue, elle a le souci de les exploiter, d'en trouver de nouvelles variétés. Mais elle est aussi attachée finalement à cette terre extrêmement hostile qu'elle était attachée au jardin et à la terre proche de sa ville, au Bnas, en Ardèche.
Et dans sa fascination pour les pierres, il y a parfois des pierres qui peuvent être d'une clarté un peu trouble, comme l'opale.
Ah oui, c'est exact. Elle collectionne les opales, ce qui est très difficile à faire. D'abord, ça vaut très cher. Pour quelqu'un qui travaille dans les mines en Australie, c'est possible. Il y a d'ailleurs des commerces plus ou moins occultes entre les mineurs. Et c'est très recherché. L'opale a cette particularité, c'est qu'elle diffracte la lumière de telle façon que c'est comme si un arc-en-ciel s'y mêlait. Et on retrouve là d'ailleurs une très très belle légende aborigène qui dit que le serpent arc-en-ciel, finalement, qui est à l'origine du monde dans sa totalité, aurait semé quelque chose comme des gouttes de sperme dans la terre qui seraient devenues des opales. Donc l'opale dans la pensée aborigène, c'est quelque chose de germinatif.
Et ça m'amène à ce temps des rêves que nous évoquions au début de l'émission. Qu'est-ce que c'est le temps des rêves? Peut-être pouvez-vous nous expliquer pour les auditeurs, François Denis.
J'ai eu du mal déjà à le comprendre, donc j'ai beaucoup lu là-dessus. Et en fait, je crois qu'on peut, dans notre imaginaire occidental, rapprocher ça d'une conception finalement de la nature comme un tout. C'est-à-dire du fait que roches, végétaux, animaux humains ne sont pas dissociés. Vous allez me dire, c'est une pensée qui devient assez répandue à l'époque de crise écologique que nous connaissons. Mais cette pensée est ancienne. Elle n'a pas attendu la formulation d'une pensée écologique, ni même de la science écologique. Elle est très ancienne. Elle s'oppose d'ailleurs à l'idée d'une séparation corps-esprit. Elle s'oppose au dualisme que la plupart des religions développent. C'est une pensée d'un imaginaire matérialiste, en fait. Comme l'évoque Diderot dans son dialogue avec...
D'Alembert.
Pardon.
Oui, non.
Le fondateur de avec lui de l'encyclopédie. Bon, c'est pas grave.
Ça va me revenir.
Ça va nous revenir.
Oui, oui.
Donc il y a quelque chose comme ça, si vous voulez, et quelque chose que je ressens dans ma propre perception de la nature, comme marcheur, grimpeur, ramasseur. Je suis un ramasseur de plantes. C'est, en dehors de l'écriture, si vous voulez, je dirais, pour ma santé mentale, en quelque sorte, et physique, c'est cette approche de la nature qui est, pour moi, essentielle. Cette lecture de la nature, par l'exercice de la marche, de la montagne, du ramassage, et donc, je pense que tout le monde peut percevoir, si on sort du cadre urbain et si on prend vraiment le temps de... le moment où j'ai le plus senti ça, je serais incapable de refaire ça maintenant, il y a 25 ans, 30 ans déjà, quand j'ai fait le tour à pied du massif du Morvan, c'est 360 kilomètres. J'ai juste une couverture de survie, un sac... Et j'ai fait ça. Et alors, ce qui est très curieux, je l'avais raconté à la radio France Culture à Jean-Dève, c'est que ce chemin qui était le chemin des charbonniers et de ceux qui exploitaient le bois, j'ai pas rencontré grand monde. Dans la partie la plus sauvage, qui d'ailleurs longe un ruisseau, on est obligé de marcher même dans l'eau, j'ai rencontré une personne, une Australienne qui faisait le chemin en sens inverse. C'est assez curieux. Donc, je n'ai pas retenu son nom. Ce livre pourrait lui être dédié au lieu qu'il est dédié à ma petite fille, Maya.
Et vous êtes allé en Australie, François-Dominique, que vous semblez connaître
je
très
pas,
bien ces paysages.
En dépit du fait que j'ai trois bons amis, David Filmer, qui est un des spécialistes justement de la protection des droits des aborigènes, qui est juriste, et avec qui j'avais travaillé il y a longtemps sur un colloque.
Dans votre autre vie de juriste.
Dans mon autre vie de juriste.
Oui.
Et Olivier Vegetta, qui est romancier, qui a écrit un très beau roman que je vous conseille, qui s'appelle « Courir encore », qui a à voir avec la naissance d'ailleurs. Et puis André Grenouille, qui est compositrice d'opéra, qui est musicienne, avec qui j'avais été en résidence d'écriture à la Napoule, et qui vient d'avoir un prix, Sydney, un prix d'opéra pour un opéra qui s'appelle « Les Trois Maries », et qui en fait reprend le mythe des Saintes Maries par rapport à l'origine des colons, les femmes, les premières femmes qui sont arrivées sur la côte, et qui ont été accueillis par des aborigènes. Et elle a écrit un livret et composé une musique très belle. Elle essaye de faire représenter cet opéra en France, là, en ce moment. Elle a été évidemment une des premières à recevoir ce livre. Et donc voilà, si vous voulez, mon rapport à l'Australie, il est relatif à des personnes qui, à un moment donné, m'étaient chères ou me sont encore chères et rejoignent de ce fait la construction mentale que j'ai faite depuis la lecture de Karel Kupka au sortir du musée dit d'Afrique et d'Océanie, qui, comme vous le savez, est devenu le musée de l'immigration.
Absolument. Et alors, je reste avec vous en Australie parce qu'il y a un personnage aussi qu'on peut évoquer sans dévoiler tout le roman, mais il m'a semblé important, deux personnages d'ailleurs, c'est celui de Marcus, le psychiatre, qui incarne une approche donc rationnelle ou en tout cas freudienne des mystères que chacun porte en soi, et celui de son patient, dont j'ai oublié le prénom, qui sombre dans une espèce de prostration, qui est au fond la marque du traumatisme de la colonisation. Et se repose la question de la perte du langage, c'est-à-dire que pour pouvoir soigner, il faut aussi maîtriser le langage de l'autre. Cette fois, c'est la question de l'altérité, du rapport à l'autre qui est posée, non, à travers ce roman.
Alors, on ne va pas raconter, parce qu'il y a toute une histoire importante à mes yeux autour de ce jeune aborigène qui travaille dans la mine. Je voudrais dire deux choses, parce qu'il y a quelque chose d'ironique. Je ridiculise un peu ce Marcus.
Oui, on sent que vous avez envie de le malmener.
Qui est un bon psychiatre, par ailleurs. Alors qu'en réalité, j'ai des amis psychiatres et psychanalystes avec qui je m'entends très bien. Et je suis un lecteur, enfin j'ai été surtout pendant longtemps un lecteur d'ouvrages de Freud, bien sûr. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de Winnicott. Mais là, l'ironie avec laquelle je traite ce docte Marcus, c'est le fait que, ne connaissant aucune langue aborigène, il ne peut pas accéder à la maladie de son jeune patient. Il ne peut pas le faire. Et je raconte de quelle façon, d'ailleurs, ce jeune homme va être sorti finalement de la clinique psychiatrique par le recours à sa famille, parce que la question des langues aborigènes, elle est liée aussi à des liens familiaux, claniques, mais qui ont une grande extension et qui sont aussi liés à cette assiduité avec laquelle les aborigènes, pour ceux qui sont restés dans leur culture et qui ne sont pas complètement acculturés à la façon occidentale, sont reliés très loin, souvent, de leur position d'habitat relatif à des éléments de leur clan, de leur totem, qui justifient tous ces trajets. Cette question des trajets qui pose d'ailleurs aux juristes australiens de graves problèmes, parce que comment les trajets, ils traversent des propriétés privés, des domaines publics, etc. Et les aborigènes tiennent à ce qu'ils soient respectés. Et alors, comment cartographier ça? C'est extrêmement difficile. Alors, il y a dans les endroits les plus désertiques, ça a été sacralisé par la loi comme une sorte de réserve culturelle, si vous voulez. Mais en réalité, rien ne peut satisfaire un aborigène qui n'a pas le droit, qui a la forte coutume de traverser pour suivre un chemin qui est un chemin de rêve et un chemin de parole.
Je me suis demandé, François Dominique, et cette question, je me la pose en vous écoutant, si au fond, dans cette question que vous soulevez grâce à ces deux personnages, il n'y a pas aussi une invitation à réfléchir d'une manière beaucoup plus générale, universelle, à la question du rapport de l'Occident à l'autre et de la possibilité aussi de le comprendre au-delà de liens de domination en entrant pleinement dans sa culture et donc dans ses rites, dans sa langue, dans sa mythologie aussi, qui est une autre forme de quête de la vérité, du rapport, et une autre forme que prend le rapport au monde.
C'est sûr que dans l'histoire, moi je crois que c'est quand même lié à l'histoire de la lutte des classes, au fait quand on prend les croisades, par exemple, les croisades ont un motif religieux, mais en même temps, ces croisades, elles sont une emprise, justement, sur des territoires, des coutumes qu'on détruit, et elles accompagnent ensuite avec les grandes expéditions des conquistadores, elles accompagnent la destruction. Et là, je lis récemment un livre de Rosa Luxembourg qui s'appelle « L'accumulation du capital » où elle termine sur la question de l'industrie d'armement et l'industrie de guerre comme volant d'entraînement des sociétés impérialistes modernes. Et elle insiste sur le fait que ça commence par la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation, qui est extrêmement brutale, qui a été amnésiée en grande partie, cette brutalité. On prend l'exemple de la colonisation française. Vous prenez même dans les livres de classe, Bugeaud, hein, et puis la destruction des populations d'Algérie au sabre. Par l'enfumage des familles dans les grottes. Tout ça a été amnésié, et pour arriver à la fiction des départements français, mais on pourrait dire ça de n'importe quelle colonisation. Pour l'Empire britannique, par exemple, la guerre de l'opium qui a décimé des centaines de milliers de Chinois, etc. Et donc, je crois que c'est lié justement en fait, au fait que à l'époque qui est la nôtre, des impérialismes, La propriété privée des moyens de production a abouti à une coupure totale entre les cultures, à une aliénation qui n'est pas simplement celle du travail, mais qui est une aliénation des esprits, une aliénation des cultures, qui font que des gens ou des populations se trouvent étrangères à elles-mêmes. Et c'est ça qui, je crois, accompagne en même temps des éléments de destruction de la nature sans retour, c'est-à-dire sans contrepartie, ni pour la nature, ni pour l'homme, parce que en réduisant tout à une sorte de profit, l'usage finit par en être oublié. Les biens dont nous disposons, les valeurs, la culture dont nous disposons, finissent par voir leur finalité effacée par leur marchandisation et par le fait qu'ils sont source de profit non profitable pour la communauté dans son ensemble, pour la société. Alors là, je dérive un peu parce que c'est pas traité comme ça dans ces livres, bien qu'à un moment, Saul,
oui,
comme vous le dites, le frère adoptif en quelque sorte de Laurie, développe ça à propos de la propriété des mines, avec une douleur qui est plus grande chez lui, parce qu'il y a la douleur des aborigènes qui pensent qu'on blesse la terre, hein, que ceux qui vont, les fouisseurs, c'est ainsi que sont désignés les sociétés qui creusent les mines en Australie, notamment pour la recherche des métaux rares, et les aborigènes disent qu'ils blessent la terre. Et il y a un passage dans le livre où Saul met en rapport cette douleur qui est la sienne aussi comme aborigène adopté, et le fait que lui-même comme cadre dans une mine, il voit bien par exemple au Congo ce qui se passe, le minerai du sang, c'est-à-dire comment justement le système du profit amène à traiter les populations autour des mines, et c'est un sujet d'autant plus d'actualité que la recherche des métaux rares se développe. Et donc il y a un passage du livre, je ne veux pas trop raconter,
non.
Mais où il met les deux choses en rapport à sa façon.
Mm-hmm. Dans une très belle lettre qu'il laisse à
Laurie. Oui, c'est ça, dans une lettre.
Oui. Et il me semble aussi que vous faites un parallèle avec ce qui s'est passé en France même, en Lorraine, avec la disparition des mines brutales et toutes les luttes qui ont été menées. Vous évoquez la Lorraine dans votre roman. En tout cas, il y a, excusez-moi, ma question est mal formulée, mais il y a dans votre roman, indépendamment de la quête individuelle de votre personnage principal, et au fil des rencontres, le bruissement du monde et de l'histoire sur 50 ans, que vous faites entendre aussi en creux.
Oui, il y a de l'histoire. Bon, à un moment donné, on traverse 68 dans les mines de Lorraine.
Oui.
Oui, l'histoire est présente.
Même une évocation de Lorraine Cœur d'Acier à
voilà.
Radio Libre.
Mais l'histoire n'est pas... elle est traversée, en effet, c'est une vie.
Oui.
Enfin, c'est 50 ans d'une vie.
Oui.
Dans lesquelles il y a l'arrachage des vignes dans les années 50, les mines de Lorraine, etc. Et puis, bien sûr, la situation des mines en Australie, c'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire en général, parce qu'il y a des pans entiers d'histoires qui ne sont pas évoqués. Elle-même explique, quand elle est au lycée, qu'elle est très studieuse, passionnée de physique, de chimie, etc., qu'elle manque pratiquement du début des années 60 tous les événements qui interrogent ses condisciples, parce que elle ne perçoit pas cette histoire qui est en train de la traverser.
Peut-être parce qu'elle est trop hantée par sa propre
histoire. Hantée, certainement hantée.
Qui lui vient par bribes seulement. Ce qui m'amène à une dernière question, François-Dominique, au sujet de ce très beau roman qui est Tu. Je reviens sur la forme. Vous avez dit en introduction que vous n'aimiez pas beaucoup les romans à intrigue. Et pourtant, il a bien fallu trouver une forme à ce roman qui s'est imposé, vous l'expliquiez, presque contre... votre besoin de trouver une structure. Et finalement, le roman dont on a cessé de dire qu'on ne voulait pas tout en dévoiler prend aussi la forme presque d'une enquête policière dont les, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, dont les indices seraient laissés par les rêves, les visions que peut avoir Laurie, personnage assez proche de Solène en cela, votre précédent roman, dans la mesure où elle est dotée, on dirait aujourd'hui, le mot est à la mode, d'une hypersensibilité.
Alors, en effet, on ne peut pas raconter, mais je dirais
et
que la question de la recherche des origines est redoublée d'une façon terrifiante quand elle approche justement de la vérité. Cette façon terrifiante, elle est personnalisée par un personnage dont nous ne dirons rien ici. Alors, cet élément qui crée une sorte de suspense, parce qu'il est intimement lié, y compris sur un plan onirique, à la quête de son origine, ça s'est produit dites une forme. Je me suis pas dit tiens il faudrait que non ça s'est produit spontanément sous la plume si vous voulez comme une crainte à la fois si vous voulez quand j'écris souvent il y a quelque chose qui me mène c'est l'attente. J'attends quelque chose que je ne connais pas encore parce que je ne sais pas où je vais aller. Et en même temps, une crainte ou une terreur. Alors, on retombe peut-être sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire l'enfant. Si on remonte aux plus anciens souvenirs de l'enfance, la peur de tomber, la peur d'être abandonné, ces peurs primitives, elles se matérialisent dans le récit par des épisodes qui sont à la fois générateurs de... d'attentes comblées et en même temps d'attentes d'événements redoutables qu'il faut à tout prix éviter.
Et cette quête, cette enquête, vous la formulez par une très belle question, très brève, dans la bouche de Laurie, je crois. Qui veut naître ? Toute une question que avec plusieurs réponses possibles, et c'est aussi une question qu'on peut se poser individuellement comme lecteur. C'est ce qui fait la force de ce très beau roman, François Dominique, « Qui es-tu ?», publié aux éditions Mercure de France. Merci d'être venu ce matin au micro d'Aligre FM pour en parler.
Merci Nadia, et bonne journée.
On se quitte avec Francis Cabrel et on se retrouve tout de suite après pour une diffusion des archives des Jeudis littéraires de Philippe Vanini. Et vous verrez que l'entretien que j'ai choisi de diffuser autour d'un livre de Valère-Marie Marchand, « La clé des rives, mythologie au fil de l'eau », a de fortes résonances avec la conversation que je viens d'avoir ce matin pour vous avec François Dominique. Merci encore.
Mademoiselle l'aventure, vous avez posé sans bruit. Roulé dans sa couverture, un petit ange endormi. On arrivait de nulle part, on l'a serré contre nous. Ce qui ressemble au hasard, souvent, est un rendez-vous. Mademoiselle, le mystère évanoui pour toujours. Vous serez toujours la mère, nous serons toujours l'amour. C'est le livre qu'on partage, et nous voilà réunis. Au matin de chaque page, on vous remercie. Vous avez la joue, on s'amuse de tout, de rien, de son corps. Pas de témoin, je présume, juste la lune et encore. Et ce trésor, cette colombe qui vous avait ralenti, vous l'avez posée dans l'ombre et l'ombre vous a reprise. Cette petite âme blanche, elle sera née deux fois. La première entre vos hanches, la seconde entre nos bras. La force que ça lui donne, c'est de l'éclat de diamant. On veut le dire à personne, à vous seulement. Vous qui avez la joue, on s'amuse de tout, de rien, de son corps. Pas de témoin, je présume, juste la lune et encore. Et ce trésor, cette colombe qui vous avait ralenti, avait posé dans l'ombre et l'ombre vous a reprise. Vous êtes sûrement très belle. comme ce petit miroir de vous. Qui s'endort contre mon aile, c'est tout ce que je sais de vous. Mademoiselle,
vous écoutez Aligre FM 93.1.
On tenait à les mettre, mais du coup ça nous a entraîné à se dire mais pourquoi finalement se limiter au bois gravé de l'édition de 1489, pourquoi ne pas regarder ce que deviennent ces illustrations au cours des âges et des rééditions de Villon. Et là ça suit un petit peu l'histoire de la réception de Villon, c'est-à-dire que
Je suis à l'antenne ? Oui, pardon, excusez-moi. Vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM 93. Un petit couac technique, le temps de recaler l'interview de Valère-Marie Marchand que je vous annonçais avant la pause musicale. Une interview datée de 2014, puisée dans les archives des Jeudis littéraires de Philippe Vanini, au moment de la sortie d'un très beau livre, La clé des rives, mythologie au fil de l'eau. Et c'est un entretien que j'ai choisi parce qu'il est en résonance avec celui que je vous ai proposé en direct ce matin avec François Dominique autour du livre « Qui es-tu ?», de son dernier roman « Qui es-tu ?», publié aux éditions du Mercure de France. Dans ces deux ouvrages, de manière évidemment très différente, il est question d'une quête des origines qui passe par la contemplation de la nature, mais pas seulement, par un contact sensuel, charnel, qui interroge la question des origines dans une portée, dans une approche à la fois sensible, individuelle, mais où l'individualité dialogue avec l'universel. Alors, si l'entretien est cette fois bien calé au bon moment, Didier, est-ce que vous me confirmez que l'entretien est calé au bon moment, s'il vous plaît ? Oui ? Donc, on va pouvoir l'écouter. Valère-Marie Marchand, 2014, un entretien avec Philippe Vanini, puisé dans les archives des Jeudis littéraires. Et je vous rappelle que Philippe Vanini nous a quittés en 2021, qu'il laisse un fonds riche de plus de 5000 entretiens, certains que nous vous proposons de réécouter régulièrement ici dans l'émission Au fil des pages. Est-ce que l'entretien est bien calé au début ? On écoute.
De Villon, c'est-à-dire que on voit bien les moments où ça se concentre. Ça se concentre juste après, au début du XVIe siècle, et puis ça se concentre au moment au XIXe siècle. On a un grand trou pour le XVIIe et même pour le XVIIIe. Et pour le XXe, après, il y a des questions de droit. On aurait pu mettre d'autres choses, mais c'était un peu compliqué.
Ah oui,
bon, ça, c'est des contraintes techniques.
On rencontre dans l'édition d'art, notamment. Oui. Et ça qui est un problème à part entière et très handicapant. Donc, François Villon, eh bien, on le retrouve dans toute sa plénitude, si je puis dire, à travers ce volume. Alors, ça sera le seul, bien évidemment, parce que c'est quand même une œuvre courte.
C'est une œuvre très courte.
Très courte.
Oui, 3000 vers.
Mais, en fait, le qualitatif et le quantitatif ne sont pas comparables. Et
c'est une œuvre courte, mais qui résonne.
Voilà, c'est une œuvre qui a une grande résonance, effectivement, et qui a toujours cette grande résonance. Et vous avez prouvé, d'ailleurs, à travers ce volume, Jacqueline Sarkis-Vigny-Toulet, que l'œuvre de François Villon n'est pas poussiéreuse, bien au contraire. Et vous dites à un moment donné, d'ailleurs, dans votre préface, qu'elle est faite pour susciter les réactions du lecteur, pour l'interpeller, pour... Il lui laisse sa place, en fait, finalement.
Il y a toujours des interrogations. Villon est dans il pose des questions. Et donc, on peut très bien les entendre, nous, lecteurs, comme des questions qui nous sont adressées à nous. Et outre le fait que, à mon avis, l'obscurité, il y a des choses un peu obscures chez Villon. Mmh. J'ai essayé de lever ces obscurités. Mais, par exemple, sur les noms, sur tous les personnages qu'il cite dont on, mais ça n'a pas d'importance pour le lecteur, je dirais. Parce que, il y a un plaisir à l'obscurité aussi. Il passe quelque chose. Malgré l'obscurité, qui nous interpelle. Et donc, soit on va chercher dans les notes, etc.
Ce volume est très riche pour les chercheurs.
Soit on va prendre le plaisir qu'on peut avoir à ne pas comprendre, à comprendre et à ne pas comprendre. Enfin, les deux étant liés.
Oui, il ne faut pas toujours comprendre. Il faut laisser aller.
On peut aussi...
Le plaisir de la divagation à partir divaguer, d'un texte.
Il a beaucoup divagué, Villon, sur les routes. Donc, on peut aussi se permettre de divaguer un peu avec sa poésie.
Voilà, une belle lecture d'automne, donc François Villon, œuvre complète, c'est un volume dans la collection La Pléiade chez Gallimard, et la préface, la traduction aussi, tout l'agencement de ce volume est sous la direction de Jacqueline Cerchilini-Toulet. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vous travaillez à un autre auteur.
Je travaille depuis très
longtemps. À nous transmettre, en fait, parce que votre rôle, c'est de la transmission comme ça.
Sur Christine de Pizan. Et donc, j'aimerais bien, mais ça sera pas de l'édition, mais là, j'aimerais bien écrire un livre, enfin, rassembler ce que j'ai pu écrire déjà et penser et repenser de Christine de Pizan. Donc j'espère que ce sera mon prochain ouvrage.
Elle a peu les honneurs de la Pléiade, elle.
Non, c'est une œuvre, alors elle, pour le coup, trop abondante, qui demanderait alors vraiment une équipe. Là, il y a une jeune collègue qui a travaillé dans le
volume. Je ne l'ai pas citée d'ailleurs. Alors.
Donc Madame Tabard, qui a travaillé sur les documents d'archives, mais pour Christine de Pizan, il faudrait une équipe vraiment considérable. Donc non, ça sera peut-être, ça viendra dans l'avenir, mais voilà. Je serai...
D'abord un livre, en introduction.
Oui, voilà, un livre en attendant.
Eh bien, on vous accueillera avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Cerchilini-Toulet. À cette occasion, on renvoie pour le moment nos auditrices et auditeurs à ce très beau volume de La Pléiade consacré à François Villon.
Merci.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute d'Aligre FM, 11h07, au fil des pages, petit problème de calage, décidément, ce matin, on n'a pas beaucoup de chance, mais on va y arriver, c'est pas grave. Je vous annonçais donc, après l'entretien que j'ai réalisé ce matin avec François-Dominique, très beau roman, Qui es-tu, publié au Mercure de France. Un entretien tiré des archives des Jeudis littéraires de Philippe Vanini avec l'auteur Valère-Marie Marchand. C'est un entretien qui date de 2014 autour de son livre « La clé des rives, mythologie au fil de l'eau ». Et vous verrez si vous nous avez suivis depuis ce matin 10h que dans cet entretien, il est question de radio puisque Valère-Marie Marchand est aussi animatrice elle-même sur Radio Libertaire. Mais il est question du rapport à la nature dans sa dimension sensuelle, charnelle, et d'une recherche au fond des origines qui résonne beaucoup avec ce que nous avons évoqué ce matin en compagnie de François Dominique. Alors, vous allez entendre normalement une musique et après viendra l'entretien annoncé depuis 11h ce matin, mais on va y arriver, avec Valère-Marie Marchand.
Allégre FM 93.1, les jeudis littéraires qui se poursuivent en compagnie de Valère-Marie Marchand pour un livre, un beau livre vraiment, qui s'intitule « Les clés des rives » et ce sont des mythologies au fil de l'eau. Il est édité aux éditions La Part Commune. Bonjour Valère-Marie Marchand.
Bonjour.
Très heureux de vous recevoir. Vous êtes en fait aussi une consoeur puisque vous œuvrez sur Radio Libertaire, qui est une radio très amie, que j'aime beaucoup.
Oui, j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup la parole, et j'estime que même la parole volatile est une création en soi. Bon, voilà. Mais c'est vrai que j'aime, tant que la radio existe, il faut en profiter. Voilà. Et je dis aux auditeurs toujours, écoutez, tant qu'on a cette possibilité de liberté de radio, allez-y gaiement, allez-y en liberté. Moi, je trouve que c'est aussi intéressant, comme vous-même, je pense, Philippe Vanini, de cette création radiophonique qui est précieuse. Voilà, je dirais que c'est un apport précieux, un patrimoine précieux, quelque chose avec un travail d'équipe en plus, parce que on a un jeune homme à la technique, où nous sommes avec nos casques et nos micros, et nous sommes dans une intimité intéressante.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire la radio de proximité aussi, la radio qui n'uniformise pas. Moi, j'ai tendance à dire que pour moi, une radio comme Ali, c'est aussi de même pour Radio Libertaire, je pense. C'est une radio qui parle tout simplement à l'individu dans une société de masse, une société qui uniformise, qui crée un magma humain comme ça au lieu de justement de permettre l'épanouissement et l'éclosion des êtres. C'est une société de consommateurs.
Oui, malheureusement, de consommateurs et la littérature, enfin, j'aime bien dire la littérature, c'est un mot désuet, c'est un mot démodé, mais la littérature, comme disait Ismaël Kadaré, c'est un mot qui a un sens, et c'est vrai que, bon, voilà, la radio, c'est aussi Jean Tardieu, par exemple, c'est aussi, moi j'ai fait mes véritables études, c'est à la radio, j'écoutais en catimini, je lisais beaucoup de livres, et j'écoutais en catimini la radio, parce que la radio, c'est la confidentialité de la parole, j'aime beaucoup la parole.
Voilà, et vous aimez beaucoup aussi écrire, et si vous êtes ici avec nous ce matin, c'est parce que justement vous nous procurez de vrais bonheurs de lecture par vos écrits. Alors, vous n'avez pas fait que de la radio, faut bien le dire, madame Machamp, puisque vous avez quand même un certain nombre d'ouvrages à votre actif, et celui-là n'est qu'une... n'est que le dernier, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Oui, mais j'oublie ce que j'écris. Alors, ça vous oblige à recommencer.
Les bouteilles à la mer, comme ça,
oui.
Vous envoyez.
Oui, j'aime cette idée de bouteille à la mer.
François Verdi, le ferrailleur de la mémoire, ça c'est un catalogue d'expo, parce que vous vous intéressez aussi beaucoup à l'art. Les mondes d'or, le jardin des mots, c'est de la calligraphie en création contemporaine, l'invisible des pierres, les ouvriers du signe, ça c'est sur la calligraphie en culture musulmane, les alphabets de l'oubli, signes et savoirs perdus, le verbe géomètre, le sable des chemins, sur les pas du facteur cheval, j'avais eu l'occasion d'en parler sur cette antenne à l'occasion de sa parution il y a 6 ans,
c'était le temps passe
en 2008, Les rivières du ciel, c'était avec des poèmes illustrés d'Aquatinte de Christiane Vell chez Almanar, très bon éditeur, que je salue au passage aussi. Boris Vian, alors là c'est les bio, Boris Vian, Rousseau.
Oui, pour le moment il n'y aura que ces deux bio parce que c'était 2 livres de commande et j'ai fait quand même 7 livres de commande sur pas mal de livres. Je regrette rien. Dans tous les cas de figure, je regrette rien. J'ai beaucoup aimé le facteur cheval qu'un de vos amis, Gérard Georges Lemaire, avait accompagné. C'est très important, ces accompagnements-là. Et puis, voilà.
Et il méritait d'être accompagné aussi.
Je ne sais pas. Si. Maintenant, vous savez, j'ai l'impression que vous recevez beaucoup d'écrivains. J'ai l'impression qu'on a des périodes d'écriture
que je n'aurais peut-être plus aujourd'hui. Par exemple, la clé dérive est très différente du facteur cheval. Le facteur cheval était au rythme de la marche, au rythme d'une difficulté d'être, alors que la clé dérive est une faculté d'être. C'est un peu la différence. C'est un peu la différence. Et moi-même, j'apprends à chaque livre. J'apprends à chaque rencontre et à chaque livre. Un livre demande de plusieurs années d'écriture, de réflexion, de composition. On est un peu comme le musicien ou le peintre dans la solitude, hein, quand même très très importante. C'est pour ça que je suis toujours attentive à la lecture, qu'on puisse en faire, même si c'est très très loin déjà.
Alors, ce livre, La Clé des Rives, donc ce sont des mythologies au fil de l'eau. Il est édité à la Part Commune, une petite maison d'édition, mais grande par les textes qu'elle publie. C'est une déambulation au fil de l'eau, comme cela, à travers toutes les résonances que peut donner l'univers aquatique dans la mythologie, et puis aussi dans notre univers contemporain, parce que vous parlez aussi de villes et de fleuves.
Oui, il y a un peu de... Vraiment, le mot résonance est très bien adapté à l'eau, parce que l'eau, elle résonne, elle fait des échos, elle nous envoie... Vous parliez de bouteilles à la mer. Moi, je suis très dans un état d'esprit de Jules Verne. J'ai pas écrit un texte sur Jules Verne. Jules Verne est un auteur que j'ai découvert avec difficulté, non pas avec une faculté d'être, mais avec une certaine difficulté, parce que Jules Verne n'est pas si abordable qu'on croit. Et je l'ai découvert parce que ma mère avait acheté toutes les œuvres de Jules Verne. Alors j'étais obligée de les lire, et j'ai mis un temps fou à lire Jules Verne.
Et puis, il y en a quand même quelques-unes.
Alors, il y a l'île mystérieuse, on vous envoie des signaux, ça me plaît bien. Il y a le capitaine Nemo, et je regrette de n'avoir pas fait un hommage au capitaine Nemo. Il y a cette notion de bouteille à la mer très très importante. Et puis, il y a le capitaine Atterras. Alors, capitaine Atterras est un petit peu moins connu, parce que c'est un homme qui combat. Et j'aime bien cette idée de combat dans la connaissance, dans l'intelligence, dans le fait de comprendre. Et je dirais presque ces variations au fil de l'eau, c'est une sorte de résonance. Oui, vous savez, c'est comme le télégraphe. Aujourd'hui, on a Internet. Alors, Internet, c'est un peu le miroir aux alouettes. Internet, on croit avoir tout découvert, tout connu. Mais il y avait le télégraphe autrefois. Vous aviez des réseaux sous les océans, ou les premiers réseaux télégraphiques.
Télégraphie sans fil, oui.
Oui, et j'aime assez ça. J'aime assez cette notion. Et c'est pour ça que l'eau est un, je dirais presque un fil conducteur, mais c'est une sorte de résonance. Vous avez trouvé le mot, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe quand on... Vous savez, quand vous écrivez, vous êtes un peu dans la peau d'un plongeur. Il y a un texte qui s'appelle l'apnée dans mon livre, à un moment donné, je ne sais pas où c'est un texte que j'écris pour deux raisons, parce que il se trouve que j'ai une expérience d'asthmatique, et je pense que l'écriture et l'asthme est assez liée. Et puis c'est sur Che Guevara, voilà. Donc l'apnée, c'est un texte qui est venu comme ça, parce que ce sont des textes qui sont venus comme ça.
C'est ça. Ce que je voulais vous demander, c'est comment se sont agencés les textes
Au fur et à mesure, j'avais cette thématique. Parce que moi, en fait...
Vous êtes partie de la thématique de l'eau, comme ça.
Oui, comme pour L'Invisible des pierres, qui était un livre, malheureusement, qui a eu un petit éditeur. Et qui maintenant est épuisé, parce que j'ai des lecteurs qui m'envoient des lettres en me disant où est passé l'invisible des pierres. Mais l'invisible des pierres, pour le moment, demeure dans l'invisible. Et je voulais faire un hommage à Bachelard. Donc les quatre éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Et j'avais un peu traité la terre avec l'invisible des pierres, et donc je voulais poursuivre avec l'eau. L'eau, c'est plus difficile que la terre. La terre, vous pouvez vous raccrocher.
Oui.
voyez.
Sur l'eau, on peut se laisser emporter. Et...
Donc, j'ai écrit des textes courts, volontairement, pour pas me laisser emporter. Même si je me laisse emporter, malgré tout. Pour laisser au lecteur, parce que je pense que le lecteur, c'est 50-50. Vous savez, un livre, il n'existe que par le lecteur. Si toutefois quelqu'un nous écoute.
Qui est un créateur.
Qui est un créateur.
À part entière. Et ça, il faut qu'il le sache et pas un consommateur.
Oui, oui.
Et c'est toute la différence, ce qui fait que le livre n'est pas un objet comme les autres.
Non, c'est une rencontre. C'est une rencontre, le livre. C'est un chemin qu'on fait à deux. Et puis, vous savez, il ne faut quand même pas se leurrer. On oublie très vite les livres. Tous ces livres qui vous sont tombés dessus, Philippe Vanini, pour la rentrée littéraire, et moi-même.
Ils sont tombés, vraiment.
Une avalanche de livres.
Ils nous tombent et on les laisse tomber aussi, pour la plupart.
On aimerait bien les semer comme le petit poussé.
Aligre FM 93.1.
Alors moi, justement, les avalanches de livres, c'est cela, c'est ce phénomène auquel on est confronté régulièrement, surtout les périodes de rentrée littéraire. Mais je pense que le choix s'opère de manière simple. Et moi, comment mettons ce livre, votre livre, donc Valère-Marie Marchand, qui s'intitule La Clé des Rives, bien, a retenu mon attention et m'a permis de voyager. Bien, c'est simplement par l'écriture, la magie de l'écriture. Et quand on lit, mettons là, je lis le début d'un texte, La Cascade. Tout en haut de la cascade, on songe à l'enfant qui fut jadis en nous, à la tristesse des nuits d'été, à l'incroyable torpeur de certaines journées. En écoutant le bruit de l'eau, on devine la proximité des roches et l'on se sent peut-être un peu moins seul. Peu à peu, on est saisi par le froid qui jaillit. On pense à des cimes impossibles à gravir, aux cabanes livrées au vide, à l'eau qui coule en surplomb des falaises. On compare les caillasses à l'ombre des ospères et l'on s'éprend de quelques courants d'air. En franchissant toutes ces étapes, on constate qu'il n'y a pas une, mais de multiples sources, que chaque pas n'est finalement qu'un créateur de route. Voilà, tout est dit.
Oui.
Le texte est là,
ouais, c'est vrai.
L'écriture porte, et sur cette écriture, eh bien, c'est un long fleuve tranquille, on y va, on se laisse embarquer.
Ouais. J'aime bien la notion de long fleuve tranquille. J'aime beaucoup les fleuves. J'aime beaucoup le calme.
Oui.
J'aime beaucoup le calme aussi. C'est un peu paradoxal. Vous savez, toute écriture repose sur un paradoxe. On est dans la solitude et on est dans le chemin qu'on essaye malgré tout de tracer vers l'autre. On sait pas. Mais je suis très, très heureuse parce que moi, je ne sais pas lire mes textes. Donc, je suis très heureuse que vous l'ayez lu.
À l'intérieur de...
Oui, parce qu'on est mal...
Vous ne pratiquez pas le gueuloir comme Flaubert?
Non. Si.
Vous lisez, alors.
Si, avant, parce que vous savez, il y a un temps de l'écriture qui est très précieux. On parlait tout à l'heure de la marche du facteur cheval pour lequel j'ai toujours une grande admiration parce que cet homme était seul et avec ses cailloux dans les poches et du ciment. Mais nous, les écrivains ou les écrivants, peut-être que je ne suis qu'un écrivain, nous cheminons avec des mots. Et les mots, ils vous mènent en bateau. Et les mots, il faut s'en méfier aussi. Et en même temps, se laisser séduire. La séduction a du bon. Voilà. Donc, je sais quand j'écris, vous savez, c'est comme vous, on se rencontre là, on sait à un moment donné, on a une intuition, on sait quand c'est bon, on sait quand il y a quelque chose qui se passe. Je dirais, je tourne toujours autour de ce mot de rencontre. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ces textes sont agencés, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup, parce que moi, j'enlève la moitié de ce que j'écris, toujours. Donc, à chaque manuscrit. Voilà. Je fais comme le galet, vous savez, le galet qui est poli par le flux et le reflux de l'eau. Je trouve que le reflux et le reflux a en écriture un rôle à jouer. Et il faut pas se laisser piéger par sa propre, séduction non plus, sa propre lecture. Donc j'ai essayé de polir au maximum ces textes pour en laisser que l'essentiel, et l'essentiel doit, après, c'est le lecteur qui est écrivain. Moi, mon rôle s'arrête là. Le livre, à la limite, pourrait faire, je pourrais le lancer sur l'eau et il pourrait faire son chemin très très loin. Je l'espère, parce qu'un livre, c'est un peu le secret, la magie, tant que Internet n'a pas encore remplacé ça. On est dans la transparence, on est dans le déballage, on est dans les sacs poubelles qu'on déballe pour la littérature.
Oui, pas mal, oui.
Et la littérature, c'est le secret. La littérature, je dis ce mot avec grand respect d'ailleurs, la littérature, c'est la nuance, l'art de la nuance. Non pas de faire dans le... Je jette mes parents à la poubelle... j'ai couché avec mon père ou avec ma mère, enfin, je sais pas ce qu'on va pouvoir inventer, ou avec quelques, bon, c'est pas ça l'important. L'important, c'est quelque chose d'inexplicable. Voilà. Un livre est toujours inexplicable.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, quand on a été formé au manuel scolaire qui disait ce que l'auteur a vraiment voulu dire, moi, j'ai reçu des centaines, même des milliers d'auteurs à ce micro, et je peux vous dire que j'en ai jamais rencontré un qui savait ce qu'il avait voulu dire.
Et, tant mieux.
J'ai souvent Julien Green qui m'avait dit un jour, vous savez, c'est pas moi qui écris, c'est l'autre, et si c'est autre, vous le rencontrez, présentez-le moi. Et je m'étais dit qu'aucun trait de vieil écrivain. Et après, j'ai compris qu'il avait amplement raison et que c'était ça, et que quand j'ai eu l'occasion une fois de le voir sortir de son cabinet d'écriture et rejoindre les amis au salon, et là, j'ai vu que l'homme venait du pays des rêves, c'est-à-dire du pays de l'écriture.
Voilà.
Et qu'il avait les yeux écarquillés.
Oui, c'est un autre pays.
C'est un autre pays, l'écriture.
C'est pas la Star Academy, hein. C'est autre chose. C'est un univers. D'abord, un écrivain est un lecteur. On écrit que le livre qu'on rêverait de lire. On n'est qu'en état de lecture. C'est pour ça que j'ai intitulé Mythologie au fil de l'eau. Pourquoi la mythologie? Après, j'ai dit zut.
Même parce que l'eau a donné beaucoup à la mythologie.
Oui.
Hein, quand même.
Oui, et puis la mythologie, j'ai pensé à Barthes, qui avait pas tout à fait tort, Barthes. Oui. Hein, c'est quand même une bonne référence. Je me suis dit, c'est un grand livre. Mais on se découvre. C'est ça qu'on. Il y a une sorte de fraîcheur. Je suis désolée d'employer cette facilité de langage, mais il y a une sorte de fraîcheur quand on parle de l'écriture. Il faut qu'à chaque page, le lecteur se sente. Je dis pas rafraîchi, mais régénéré, revitalisé, qu'il ait envie de vivre, tout simplement. La lecture est un appel à la vie, à la vie, peut-être pas de l'écriture, parce que finalement, vous savez, un livre, qu'est-ce que vous en retenez? Un titre, quelques phrases, si toutefois vous en retenez quelque chose.
Une musique aussi.
Une musique, un charme, c'est important le charme.
Et puis vous savez, c'est, enfin pour moi, en tout cas... les livres font sève, c'est-à-dire c'est de l'ordre de la sédimentation. Il y a un dépôt comme ça, et ces dépôts-là font ce que nous sommes, en fait, finalement, je pense, nous les lecteurs. Quand on est fait à un homme fait de tous les livres, disait Sartre, mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un corps étranger, un corps extérieur.
Il ne faut pas que ce soit un corps
c'est
étranger.
C'est un corps intégré et assimilé aussi d'une certaine manière avec lequel c'est une matière première avec laquelle on crée.
Ah ben moi je trouve que le mot matière première est tout à fait le mot matière de l'écriture. Je peux vous dire, je sais pas à quelle échelle je me situe, je sais pas du tout et je tiens pas à savoir. Mais au moment où je vous parle, je peux vous dire que l'écriture est une matière, vous sentez la matière du texte. Vous me posiez la question, puisque j'ai l'esprit d'escalier, c'est vraiment un défaut. Chez moi, je réagis à retardement. Mais c'est vrai que les textes se font et vous sentez à un moment donné une sorte de matière qui vous dépasse vraiment, qui ne vous appartient même plus. Je dirais presque on signe ces livres. Mais ce qui reste, c'est le titre. Et souvent, on me parle d'un livre comme ça. Ah bah oui, j'ai lu Les Ouvriers du Cygne. Voilà, mais c'était mon livre. Mais moi, je ne l'ai pas relu, je ne relis jamais mes textes. Donc, si vous voulez, vous êtes dans une sorte de matière, de sorte de création non dite qui vous fait évoluer, qui vous fait progresser. C'est pour ça que chaque livre est forcément inachevé, puisqu'il vous amène à un autre livre que vous croyez, vous, être la réponse achevée à ce livre inachevé, mais vous êtes toujours en recherche, et c'est ce qui est le merveilleux du vivant.
Alors, on va revenir avec les dérives quand même au livre donc que vous avez intitulé aussi Mythologie au fil de l'eau. La clé des dérives, il y a une clé vraiment, Valère Marie Marchand.
Oui, il y a une clé. Oui, il y a une clé, forcément. Je ne sais pas, je l'ai pas encore trouvée, mais il y a une clé. Il y a une clé.
Toujours. Et sur la rive, vous la cherchez, quoi.
Je la cherche.
Alors, vous nous faites parcourir des terres aquatiques. Terres aquatiques, c'est beau, hein, comme.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire des rives qui sont très différentes les unes des autres. Hein. Là, tout à l'heure, on a parlé d'un texte sur les cascades. Après, vous nous amenez sur le Gange, sur la banquise, avec aussi les sortilèges de Diane, aussi des réflexions presque scientifiques sur H2O, où là c'est c'est aussi la fille océane, donc c'est cette mythologie elle est très empreinte des éléments aquatiques.
Oui, elle est très.
C'est la force de l'eau, c'est.
C'est la force de l'eau parce que l'eau c'est la mémoire, comme la terre aussi. Les éléments sont notre mémoire. Bachelard l'avait dit avant moi, bien plus d'une façon totalement différente. La mémoire de la matière intelligente. Beaucoup d'écrivains étalent leur petite vie avec des petits mots dans des petits livres. Ils ont oublié cette dimension universelle de lien et de réflexion. Voilà. La réflexion, vous savez, comme disait Cocteau, les miroirs ont l'art de réfléchir. C'est intéressant, les miroirs, et c'est intéressant, la réflexion. J'aime beaucoup la réflexion. Il y a un texte sur Narcisse, par exemple. Nous sommes dans une société hyper narcissique. Hein?
Il n'y a que le reflet qui existe.
Hein. Il n'y a que le reflet. Mais ce n'est pas un reflet très intéressant sur le plan littéraire. C'est un reflet raccourci, c'est ça. Parce que le reflet lui-même, le reflet, avant de venir reflet, a un chemin. Et c'est un peu, là, je viens de vous résumer un peu ma tentative d'écriture. C'est-à-dire que dans le chemin du reflet, j'essaye de montrer le chemin de l'eau. Et ce n'est pas que le chemin de l'eau, c'est le chemin des éléments vers nous et de notre propre chemin vers certains éléments, sans être forcément bouddhiste, sans être forcément écologiste. C'est un chemin existentiel, tout simplement. Voilà, je pense qu'actuellement, on a beaucoup de livres qui écrivent pour ne rien dire et qui font beaucoup de bruit pour rien. Mais ça, c'est dans les marges.
Alors sur le bord de l'eau, comme ça, on peut rencontrer des sirènes.
Oui, les sirènes, c'est très très important.
Oui.
Vous en avez rencontré, Philippe Vanini.
Bien sûr.
Hein, la sirène.
Par les sirènes qui logent au creux de la vague, dans le sillage des dériveurs et de quelques éponts rocheux.
Ouais. Hein. C'est important, la sirène. Moi, c'est. Je suis habitée, parce que j'ai fait des études de lettres classiques. Mais pour ma génération, qui est quand même maintenant pas très jeune, enfin qui est ni vieille ni jeune, faire du latin et du grec, c'était déjà has-been à l'époque, en 86 par exemple, c'était déjà.
Pourtant, les fondements de notre culture.
Ouais, mais c'est vrai que moi j'ai toujours été habitée par cette lointaine proximité, cette rive. J'aime beaucoup la littérature italienne, latine surtout, grecque aussi forcément, et la sirène, mais écoutez, on est en plein dedans, on est au point de vue politique, on est en plein dans les sirènes, il faut se méfier des sirènes même littéraires.
Oui.
Voilà, 11h44 sur Aligre FM 93.1, un extrait malheureusement écourté d'un entretien de Philippe Vanini avec Valère-Marie Marchand. C'était en 2014 à l'occasion de la Clé des Rives, mythologie au fil de l'eau. Et c'était un entretien diffusé en résonance avec l'interview en direct que j'ai réalisée ce matin avec François Dominique autour de son roman, très beau roman, Qui es-tu, publié au Mercure de France. Une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après. I left my home and all I know come to this land of dreams, but on arriving I found that dreams are not always what they seem. I sold my soul for a fist of gold, you dig from dusk to dawn. I can't leave here and I fear I'll always be considered born. So I dig a digging, I dig a digging, I dig a digging, I dig a digging. Have a break, this chance I'll take it with what change fate for me. If you don't try, you'll never know if it's to be or not to be. I have often heard him say, take that ball and run. I won't settle for second best, 'cause I gotta be number one. So I dig a digging. Woo! Said I dig a digging. I dig a digging. I dig a digging. Every chance in life you take begins and ends with you. You can turn the problem upside down, lopsided until it's askew. Nothing in life is easy, I'll tell you, yes siree. If you want something out of life, put your back in it and sing with me. Come on, dig a dig it. Ow, dig a dig it. I dig a dig it. I dig a dig it. Come on and dig a dig it, everybody. Woo! I dig a dig it. Yeah, I said I dig a dig it. Let's go and dig a dig it. I dig a dig it. I dig a dig it. Come on and dig a dig a dig a dig it. I dig a dig it. Come on and dig a dig it. Woo! I dig a dig it. Come on and dig a dig it. Come with me, dig a dig it. I say I dig a dig it. I dig a dig it. Come on and dig a dig it. Put your back and dig a dig it. Je rappelle que ce matin, dans l'émission Au fil des pages, je recevais François Dominique pour son très beau roman « Qui es-tu ?», publié aux éditions du Mercure de France, suivi d'un entretien de Philippe Vanini avec Valère-Marie Marchand pour son livre « La clé des rives, mythologie au fil de l'eau », entretien de 2014, puisé dans la malle au trésor des plus de 5000 archives des jeudis littéraires que je vous proposerai d'écouter chaque jeudi. Merci à Didier Robert qui était ce matin à la console et qui nous a permis de réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute. Retrouvez nos podcasts sur www.aligrefm.org. Demain, vendredi, vous retrouverez le magazine scientifique Recherche en cours de Jean-Marc Galland et Brasil Alto Astral de Gilles Bourgarel. Je vous rappelle qu'Aligre FM est une radio associative animée par des bénévoles. Si nos programmes vous plaisent, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à faire un don pour soutenir notre programmation. Nous en serons ravis. Et puis, écrivez-nous sur les réseaux. Dites-nous qui nous écoute. Nous sommes curieux de vous connaître. À très bientôt sur les ondes d'Aligre FM 93.1 et en streaming ainsi qu'en DAB. J'imagine ma terre sous les parasols. Mais là, je m'imagine la terre, je deviens parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle a jamais...
jamais retourner sa veste. Vous écoutez Aligre FM 93.1.